François nous en a parlé ce matin, on a parlé de bonnes résolutions, et ce chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens est plutôt propice aux résolutions et aux bonnes intentions qu'on peut avoir en début d'année. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va resituer un petit peu le contexte. Paul écrit cette lettre depuis Éphèse, de l'autre côté de la mer Égée, et les dernières nouvelles qu'il vient de recevoir de l'Église. Merci. Et les dernières nouvelles qu'il vient de recevoir de l'Église de Corinthe ne sont pas très bonnes. Et bien que les croyants de Corinthe n'en aient pas conscience, ce qui interroge Paul sur leur maturité spirituelle. Et ce qui l'inquiète, c'est de les voir s'être donnés des maîtres à penser, sans même s'en rendre compte qu'ils ne suivaient en cela que leur inclination naturelle d'un monde grec friand de discours philosophiques et de démonstrations d'éloquence. Et pire encore, ils en sont venus à instrumentaliser les apôtres, Pierre et Paul lui-même, ainsi que Apollos, un prédicateur éloquent, en se réclamant de l'un. Alors, je suis un peu embêté parce que j'ai le micro dans mon champ de vision. Est-ce qu'on va essayer comme ça? Je vais quand même remonter ça. C'est un peu technique ce matin. Voilà, donc je disais qu'ils en sont arrivés à instrumentaliser les apôtres, Pierre et Paul lui-même, ainsi qu'Apollos, un prédicateur éloquent, en se reconnaissant et en se réclamant de la pensée chacun d'un de ces trois-là, au gré de leurs préférences personnelles. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollos. Et on parle bien d'instrumentalisation, car ni Pierre, ni Paul, ni Apollos n'ont cherché et encore moins suscité ce genre d'attitude à leur égard. Et il s'agit là d'un détournement que Paul a dénoncé dès les premières lignes de cette lettre, y compris, bien sûr, à son propre égard. Il leur rappelle dans quelles conditions de faiblesse il est arrivé à Corinthe et comment, dénué de la moindre éloquence, la puissance de Dieu et l'action de l'Esprit se sont manifestées parmi eux. La dernière fois que nous avons lu ce que disait Paul au sujet de la vraie sagesse, la sagesse qui n'est pas d'origine humaine, la sagesse qui vient de Dieu, il disait que c'est une sagesse tellement différente de la sagesse humaine qu'elle paraît être folie. Dans un monde où il faut être fort, le Dieu annoncé se laisse crucifier comme le dernier des coupables. Et je trouve que ce n'est pas si différent aujourd'hui. Dans un monde où règnent ceux qui parlent fort, la sagesse de Dieu chuchote dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Ceci nous amène au chapitre 3. Je vois que le texte est affiché. Eh bien, allons-y, lisons la première partie que nous allons lire, du verset 1 au verset 9. Est-ce que tu as mis en route ton micro ? C'est bon ? Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on a mis la main sur la zapette? La télécom... Non? Il faut demander. OK. Bien. Alors, revenons à notre texte. Le constat est tout de même assez accablant. Hein, ce qui était normal au début, la nécessité de nourrir les Corinthiens jeunes convertis par une nourriture spirituelle élémentaire, simple, facile à digérer, n'a pas évolué comme il se devait. La comparaison avec le lait maternel est claire. Ce dont ils avaient besoin dans leur premier pas avec le Seigneur, et de manière tout à fait naturelle, ne leur a pas profité. Et effectivement, on aurait du mal à imaginer un nourrisson de 10, 15, 20 ans. Et pourtant, c'est ce que constate Paul à leur sujet avec un certain effarement. Leur façon de se jalouser, de se disputer, tels des enfants, rend évident le constat d'une croissance anormalement lente, voire atone. Leur besoin de laisser libre cours à leur désir de dominer se lit comme un livre ouvert dans le regard qu'ils portent sur leur prédicateur et dans leur manière de les instrumentaliser. Au cours de ces voyages, Paul, qui fondait des églises et les visitait quelque temps plus tard, a eu l'habitude de voir parmi les croyants les effets d'une croissance normale. Il ne s'agit pas pour lui d'un concept théorique, c'est vraiment du concret. Et je pense là, par exemple, aux courbes de croissance qu'on peut trouver dans les carnets de santé des enfants. Hein, vous avez deux courbes de croissance qui sont tracées à différents âges, un mini, un maxi. Et il y a toute une plage dans laquelle on estime à chaque visite si la croissance est normale au fil des ans. Et les propos alarmants de l'apôtre semblent décrire une situation très en dehors des clous. Tel il les a quittés, tel ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Si on peut avancer dans le diaporama. Le pire, c'est que je ne vois pas. Alors non, ça va être compliqué. Je crois qu'on va, on va laisser tomber, on va rester juste avec le texte sous les yeux, parce que sinon ça va être très compliqué sans la zapette. On va être plutôt dans la première partie du texte. Ils sont restés tels qu'il les a quittés à son départ de Corinthe. Et comment est-ce possible? Paul nous donne la réponse au verset 3. Parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. Et on le verra à partir du chapitre 12, les Corinthiens sont très tournés vers l'Esprit Saint. Mais, et je cite là Robert Somerville dans son commentaire, ce qu'ils attendent de l'Esprit, c'est qu'il leur donne accès à une connaissance supérieure au moyen d'extase, de spéculation intellectuelle, d'expériences mystiques qui ont pour but de les élever au-dessus de la condition humaine. Mais ils se trompent, ils négligent l'essentiel. L'action de l'Esprit Saint dans un être humain se voit surtout à son comportement, et plus spécialement à l'amour qui caractérise ses rapports avec les autres. Le chapitre 13 le redira avec force. Et donc les Corinthiens parlent beaucoup de l'esprit, mais ne se laissent pas pour autant contrôler par l'esprit. Et c'est en cela qu'ils se comportent en hommes et femmes livrés à eux-mêmes. Dans certaines traductions, vous trouverez charnel. Ce ne sont ni leurs idées, ni leur théologie qui les désignent ainsi, mais leur comportement. Et là, je pense à deux publicités maintenant assez anciennes, mais peut-être qui reviendront en votre esprit, et qui peuvent illustrer la situation. Une marque de frites surgelées. Ceux qui en parlent le plus sont ceux qui en mangent le moins. Et puis, peut-être aussi, avez-vous le souvenir, cette publicité qui parlait de l'effet bifidus, bifidus actif dans les yaourts. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit de l'extérieur. Juste un petit peu d'humour pour traiter ce sujet, mais qui au fond est quand même assez sérieux. Et en ce début d'année, avec ce regard, avec ce rappel d'une action intérieure de l'Esprit de Dieu pour influer sur nos comportements, en particulier dans nos rapports avec les autres, peut-être pouvons-nous décider, prendre la résolution de créer les conditions d'une croissance spirituelle plus soutenue. Lecture de la Bible, prière, peut-être renverser notre rapport à Dieu et à son esprit en vue d'un effet concret sur nos comportements, se laisser plus utiliser par l'esprit et en être moins utilisateur. Dans les lignes qui suivent, Paul saisit l'occasion, l'évocation du nom d'Apollos et de lui-même comme l'occasion de décrire les ministères de l'un et de l'autre, en employant une image agricole ou potagère, comme vous voulez. Il explique que lui-même, Paul, a planté et Apollos a arrosé. Et là, je remarque qu'il emploie les termes dans la question qu'il pose au verset 5, « Que sont Apollos et Paul ?» et non pas « Qui sont Apollos et Paul ?» Ça, ils connaissent très bien, ils savent très bien qui sont Apollos et Paul. Mais non, « Que sont Apollos et Paul ?» Et ce qui indique que Paul veut détourner l'attention des Corinthiens de leur personne pour la fixer sur leur fonction, le rôle qui leur a été confié. S'ils sont des serviteurs, des moyens, des instruments par lesquels Dieu agit, il est ridicule de les considérer comme des maîtres à penser dont on peut se réclamer. Il est fou de s'attacher à eux plutôt qu'à Dieu. Et d'ailleurs, il dit... C'est Dieu qui fait croître. Et cette parole va beaucoup plus loin qu'on pourrait l'imaginer au premier abord. On pourrait penser qu'il s'agit d'un travail à trois. L'un plante, l'autre arrose, le troisième fait croître. Eh bien, pas du tout. La nature même de l'image en démontre le contraire. Et c'est assez évident, hein, planter tout ce que vous voulez... Si la terre n'est pas dotée des éléments nécessaires à la croissance, il ne se passera rien. De même, arroser tout ce que vous voulez, il ne se passera rien. Un essai simple, tout simple, peut être fait dans le sable. Si vous avez du sable pur qui ne contient que des éléments minéraux, rien n'y poussera, quelle que soit la quantité de graines et de plantes que vous y mettrez, quel que soit le nombre d'hectolitres d'eau que vous y verserez. Le travail de celui qui plante est ponctuel, même chose pour celui qui arrose, mais tout le processus de croissance dépend de la terre. À chaque minute, chaque seconde, les éléments contenus dans la terre font leur œuvre en sorte que la croissance est continue, permanente, ininterrompue, décisive. Et sans cette combinaison d'éléments des éléments contenus dans la terre, des éléments nutritifs contenus dans la terre, toute action de plantage ou d'arrosage est vouée à l'échec. Plantage, c'est autre chose. Plantation. La mention des deux actions de planter et arroser souligne aussi leur complémentarité à Paul et Apollos, et non la supériorité de l'un sur l'autre. S'il y a quelque chose de supérieur dans le déroulé, c'est bien ce que nous venons de parler, c'est ce processus de croissance inhérent à la terre et dont aucun homme ne peut se prévaloir. Car à la fin, ce processus échappe à tout contrôle humain, l'homme ne peut que le constater et bien sûr s'en réjouir. Et nous notons que l'action des hommes, qu'il s'agisse de planter ou d'arroser, n'est en rien leur exclusivité. Parce que chaque jour, un nombre incalculable de plantes prennent racine, de graines germent sans l'aide de la main de l'homme, et même la pluie les arrose en dehors de toute intervention humaine. Et on a là une image très parlante de l'œuvre que Dieu fait en profondeur et dans laquelle il nous donne de participer en pure grâce, notamment dans le cadre de l'Église, le champ qu'il cultive, lisons-nous, ou le champ de Dieu dans d'autres traductions, la part à laquelle il nous associe, en quelque sorte, notre terrain de jeu. Et les verbes employés ici par Paul nous dévoilent également la nature de leur ministère respectif à lui et à Apollos. Planter, l'action qu'il revendique pour lui-même, décrit en effet un travail pionnier en terre vierge. Il s'agit d'apporter l'évangile là où il n'a jamais été prêché. Il s'agit d'ouvrir un nouveau champ, de toucher des populations étrangères à l'évangile. Et on le voit bien dans les actes, comment Dieu a préparé la suite après Paul, en suscitant ce fameux Apollos dont il parle ici, un homme instruit et sachant enseigner, pour prendre le relais, arroser, favoriser, accompagner la croissance spirituelle des chrétiens de Corinthe. Mais malheureusement, les chrétiens de Corinthe ne se sont pas montés très dignes, très à la hauteur des efforts de ces deux hommes, alors que Paul avait tout de même fait de ce champ de Corinthe un champ d'action prioritaire. Il y était resté près de 2 ans, beaucoup plus que partout où il avait travaillé ailleurs jusque-là. Et très clairement, la faute n'en revient ni à Paul, ni à Apollos, mais aux Corinthiens eux-mêmes, et bien sûr encore moins à Dieu, comme s'ils évoluaient dans une terre stérile. Nous le verrons plus loin, ils ont été dotés d'une manière tout à fait spéciale, d'une diversité de dons, de ministères, à faire même pâlir d'envie de beaucoup d'autres communautés bien moins desservies, bien moins favorisées. Et pour rester sur le terrain agricole, et ce n'est ni le faible travail d'ensemencement de la terre, ni le manque d'eau, ni la pauvreté du sol qui sont en cause, c'est la capacité de ces plantes à germer, à prendre racine, à absorber l'eau et à assimiler les nutriments qui engendrent ce rendement affligeant, incompréhensible, au regard des conditions particulièrement favorables dans lesquelles il survient. Et malgré leur prétention à être des chrétiens super spirituels, peut-être à cause de cette prétention, ils sont restés charnels, livrés à eux-mêmes, comme le dit Paul, utilisateurs de l'esprit, mais ne se laissant pas conduire par l'esprit. C'est très bien d'utiliser l'esprit. Il vaut mieux utiliser l'esprit qu'un fusil, hein, bien sûr, mais il vaut encore mieux être utilisé par l'esprit. Et je le répète, Paul parle ici d'expérience. Il en a vu d'autres. Il a vu maintes autres, en main d'autres lieux ce qu'il en est, là où l'esprit de Dieu règne dans le cœur des croyants. Ce n'est pas un constat fait à la légère. Son constat est circonstancié, objectif, étayé. Je vous propose de poursuivre la lecture de notre passage jusqu'au verset 17. Et donc, si on peut afficher la suite du passage avant de démarrer la lecture. Bon, très bien, on peut y aller. Je pense qu'il faudrait rapprocher le micro de ta bouche. Non. Bon, continuons. On n'est pas nombreux, ça ira. Merci, merci aussi à la technique d'avoir fait avancer le texte. Voilà, et nous revenons au début du passage. Et à ce verset 9 que nous avons déjà lu tout à l'heure, parce que, et qu'on reprend ici parce que c'est un verset charnière. En effet, au milieu de ce verset, Paul bascule dans une deuxième image. Après l'image potagère, nous entrons dans une image de maçonnerie. Vous êtes l'édifice qu'il construit, ou dans d'autres traductions, la construction de Dieu. Mais bien que changement totalement de registre, l'image illustre le même enseignement général. Il y a l'œuvre de Dieu, l'œuvre universelle, à laquelle il associe des ouvriers pour collaborer avec lui. Mais néanmoins, ce qui est mis en avant, c'est le comment. Comment les ouvriers vont collaborer? Et cette définition du comment ne va pas s'attacher à décrire la qualité de leur travail, s'ils vont travailler bien ou mal. Ça n'est pas évoqué ici. Pas plus que leur ardeur, s'ils vont travailler peu ou beaucoup. Mais il sera question des matériaux qui vont entrer dans la construction. Des matériaux de valeur, des matériaux nobles ou vils, sans valeur, des matériaux pérennes, durables, ou au contraire sujets à la décomposition, à la combustion. Mais avant cela, le verset 9, Paul nous explique sur quoi repose le travail des ouvriers et comment il voit son propre rôle dans le chantier. Il nous a dit en préalable que Dieu est le constructeur de l'édifice, et c'est une chose dont il faut toujours nous souvenir régulièrement, parce qu'au fil des jours, des mois, des années, on peut l'oublier. On peut l'oublier peut-être en s'appropriant un peu trop le chantier, en faire un peu trop notre construction. Et bien sûr, c'est une bonne chose que de faire sienne l'œuvre de Dieu, c'est le sens de la participation qu'il nous propose. Et c'est aussi ce que nous suggère le début du verset 9, ce verset charnière, car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Ou dans d'autres traductions, nous sommes des collaborateurs de Dieu et ouvriers avec Dieu. Nous sommes bien là dans l'idée d'un travail collaboratif, de travailler unique avec Dieu et pas seulement exclusivement pour Dieu. S'il ne s'agissait que de cela, notre statut serait plus proche de celui d'un mercenaire. Non, c'est clair, Dieu nous veut associés et participants à sa mission pour le monde. Mais nous ne pouvons pas oublier que sur quel fondement repose cette mission et que ce fondement, c'est Jésus-Christ lui-même. Tout ce qui s'écarterait de ce fondement, tout ce qui, en quelque sorte, tendrait à exproprier Jésus-Christ de l'édifice, n'en fera pas partie au final. Et le moi est bien capable de ça. Le moi est bien capable de s'approprier les objectifs, les mérites, les bénéfices de l'action de Dieu. Et mon Église, c'est avant tout l'Église de Dieu. L'Église, oui, c'est mon Église en tant que membre, mais pas en tant que propriétaire. Mais l'image peut-être de l'Église épouse du Christ en restitue bien la nuance. L'Église est l'épouse du Christ, j'en fais partie, mais elle n'est pas mon épouse. Et puis, il y a peut-être une deuxième circonstance dans laquelle il peut être facile d'oublier que nous intervenions sur le chantier de Dieu. C'est quand ça devient difficile. C'est quand les nuages noirs s'amoncellent, quand les choses nous échappent, comme si, d'ailleurs, elles nous avaient appartenu à quelque moment. Mais même dans ces circonstances douloureuses, il s'agit toujours du chantier de Dieu. Lui ne lâche pas l'affaire. Alors Paul nous dit que, pour sa part, son travail a constitué à poser le fondement. Mais il ajoute aussitôt que ce fondement, c'est Jésus-Christ. Et on sent très bien là le risque qu'il perçoit d'être mis sur un piédestal au détriment du Christ, comme c'est le cas malheureusement à Corinthe de ceux qui s'attachent au bâtisseur dont lui-même fait partie, de même qu'Apollos. Fondateur, oui, fondement, non. Et l'expression que nous avons ici de Paul, se comparant à un sage architecte, est issue d'une transcription assez malheureuse d'un mot grec qui a donné effectivement architecte en français, mais qui signifie en grec chef de chantier. La Nouvelle Bible Seconde le traduit par un terme moderne, plus moderne, maître d'œuvre. Il ne s'agit pas de celui qui a dessiné les plans, qui est Jésus-Christ, mais de celui qui a délégation pour diriger la construction. Et je pense que on peut aussi entendre le qualificatif de sage, moins dans l'idée d'une supériorité de sagesse que celle d'une soumission et d'un respect au plan établi par Dieu. Et après ce préalable, il en vient à l'avertissement lui-même qui revient un peu à dire, connaissant la valeur de ce qui a été posé et le soin qui a été apporté, pitié, ne faites pas n'importe quoi. N'apportez pas comme matériau tout ce qui vous tombe sous la main. Respectez la construction à laquelle c'est votre tour de participer. Inscrivez-vous dans la lignée des bâtisseurs qui se sont soumis au plan établi par Dieu. Et dont d'ailleurs le premier d'entre eux, Jésus-Christ, s'est lui-même soumis à la volonté du Père. Car Jésus ne nous demande rien qu'il ne se soit imposé à lui-même. Alors oui, Paul nous le dit, on peut bâtir selon ses propres désirs, ses propres critères. On pourra sauvegarder les apparences, ça pourra peut-être même tenir jusqu'au jour du jugement, mais là, grosse désillusion. Et l'intention de Paul n'est clairement pas de laisser les choses traîner jusque-là. Son ambition pour les croyants de Corinthe n'est pas qu'ils soient sauvés de justesse, comme c'est dit ici. Il ne veut pas pour eux d'une grâce au ras des pâquerettes, mais au contraire d'une grâce stimulante, enthousiasmante, revigorante. Et avant de conclure, je voudrais juste apporter quelques mots au sujet du verset 17. Paul adresse un sévère avertissement à qui, je cite, « détruit le temple de Dieu ». De qui s'agit-il ? Ce n'est évidemment pas le cas des ouvriers qui ont participé à la construction en utilisant des matériaux sans valeur. D'après ce qui précède, leur œuvre est détruite, mais eux échappent à la destruction. Toujours selon Robert Somerville, Paul pense ici, je cite, « à ceux qui mènent un travail de sape et qui, par leur vie ou leur enseignement, détruisent ce que Dieu cherche à construire à Corinthe ». Or, d'après le contexte, ce travail de sape se caractérise d'une part par leur attachement aux différents maîtres à penser et d'autre part à la poursuite d'une sagesse qui flatte l'orgueil humain. Et en cela, ils posent d'autres fondements que Jésus-Christ, divisent l'Église et détruisent le temple de Dieu. Alors, il est temps de conclure. Tout d'abord, vous pourrez peut-être remarquer qu'à aucun moment, l'Église, en tant que telle, en tant qu'expression, n'est mentionnée dans ce passage, et pourtant elle apparaît très clairement en filigrane. C'est bien à elle, l'Église rassemblée, comme nous ici ce matin, ou dispersée dans le monde, comme nous le serons dans quelques instants après ce culte, c'est bien à l'Église que ce message est adressé. Comment va-t-il nous interpeller ? Eh bien, comment ? C'est la question que je propose de nous poser en ce début d'année. Est-ce qu'on n'a pas chanté ce matin un chant qui disait que nous aspirons à un souffle nouveau ? Comment ? Comment inscrire notre participation à la construction de Dieu dans son plan ? Comment sélectionner, sans renier ce que je suis, ce qui subsistera dans le temps, et en particulier après le jugement. Car viendra un jour où le comment, c'est ce que nous dit le verset 13, le comment déterminera la nature de ce qui restera. Même les polluants qu'on dit éternels, dont on parle beaucoup en ce moment, seront consumés. Comment l'Esprit de Dieu va-t-il habiter en moi, en locataire ou en propriétaire ? Et je voudrais vraiment aborder cette question de manière positive, motivante, enthousiasmante. Non seulement la grâce de Dieu nous sauve, mais en plus, Elle suscitera en nous un élan propre à vivre et à agir d'une manière gratifiante. Et j'emploie le mot à dessein, gratifiante, parce que c'est marqué là, on parle de salaire, ou dans d'autres traductions, de récompense. Non seulement notre dette est effacée, mais désormais notre compte peut être crédité. Pas pour payer notre salut, ça c'est clair, mais comme salaire, comme récompense. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici au verset 14. Alors comment ? Le comment, ça commence par, bien sûr, nos intentions, nos motivations. C'est un bon sujet pour un début d'année. Quel but poursuivons-nous ? Ça se poursuit par notre manière d'être, notre attitude. Nous avons évoqué le respect, la soumission à Dieu, à son plan, mais aussi dans nos relations. Et dans l'Église, ce que nous aimons appeler la soumission mutuelle, dans l'authenticité, la simplicité. Alors oui, bien sûr, le verdict final tombera le jour du jugement. Et nous devrons attendre ce jour pour ce verdict définitif. Mais en attendant, et je demande si on peut afficher la dernière diapo, en attendant, ce que nous avons à faire, c'est écrit là.
Merci Philippe. Si tu veux bien avancer les diapos. Nous passons au temps d'offrande. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Pourquoi le premier jour de la semaine ? L'offrande, c'est donner la première place à Dieu. C'est lui faire confiance, il va continuer à pourvoir à nos besoins. C'est à la fois un engagement et un geste de foi. Donc vous pouvez donner sur le tronc qui est près de la porte de la sortie ou faire un don.